Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Affaire Joseph Kabila, accusé de complicité avec la rébellion FCM23, le Sénat a entamé hier l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des FARDC demandant la levée des immunités du sénateur à vie, sujet qui a suscité une polémique entre sénateurs. Le bureau met en place une commission spéciale pour étudier la demande et rendre son rapport dans 72 heures. La MONUSCO annonce la fin de l'opération de transport de plus de 1300 membres non armés des FARDC et de la police nationale, des personnes réfugiées dans les bases de la MONUSCO à Goma après l'occupation de la ville par l'FCM23. L'opération a été conduite durant plus de 3 mois en collaboration avec le CICR. Et puis, l'invité de ce matin, René Eaka Ibambi, président du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Touélé. Il nous parle de l'entrepreneuriat des jeunes à Isiro, où plusieurs opportunités s'offrent aux jeunes pour entreprendre et transformer les idées en actions concrètes. Madame, Messieurs, bonjour. Le Sénat a entamé hier jeudi l'examen à huis clos du réquisitoire de l'auditeur général des FARDC demandant la levée des immunités de Joseph Kabila, président honoraire de la République et sénateur à vie. D'après nos sources sénatoriales, un débat contradictoire a été ouvert après l'intervention de la sénatrice Christine Mwando qui plaide pour que cette procédure soit soumise au vote des députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, ce conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. Les autorités congolaises accusent Joseph Kabila d'être complice de la rébellion AFC-M23. L'ex-chef de l'État, aujourd'hui en exil, est visé par des lourdes charges, soit crimes de guerre, crimes contre l'humanité et massacre des civils. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Pendant plus de 2 heures de débat à huis clos, deux camps s'affrontent, suscitant une tension au sein de l'hémicycle. D'un côté, renseignent nos sources, les sénateurs de l'UDPS et alliés insistent, la justice doit suivre son cours. Ils soutiennent les réquisitoires de l'auditeur général des FARDC qui demande la levée de l'immunité de Joseph Kabila pour qu'il réponde des accusations de crimes de guerre et de complicité avec le M23. De l'autre, les partisans de la sénatrice Christine Mwando de Ensemble pour la République estiment que seul le Congrès, réunissant députés et sénateurs, a le pouvoir d'élever l'immunité d'un ancien président. Il cite l'article 224 du règlement intérieur de la Chambre haute. Face à cette impasse, le Sénat a créé une commission spéciale ad hoc. Elle dispose de 72 heures pour étudier la demande du procureur militaire et rendre son rapport en plénière. Cette commission pourrait même auditionner Joseph Kabila, actuellement à l'étranger, souligne notre source.
Et dans le cadre de la justice pénale internationale, la Haute Cour militaire, en collaboration avec la section d'appui à la justice de la MONUSCO, a présenté hier à Kinshasa son bulletin des arrêts, dont celui sur l'affaire Cheka et le guide du juge militaire congolais. Les deux ouvrages ont été portés sur les fonds baptismaux par le point focal de la RDC à la CPI et conseiller du président de la République, Taylor Lubanga, devant un parterre des magistrats, représentations diplomatiques et défenseurs des droits de l'homme. Une double cérémonie ponctuée par la projection d'un film documentaire sur l'affaire de l'ancien seigneur de guerre Ntabo Ntaberi Cheka, ex-chef de la milice Nduma Defense of Congo NDC dans le Nord Kivu. Reportage de Jeff Ngoy.
Réalisé grâce au financement de la MONUSCO, les deux ouvrages et le documentaire décrivant le procès de Cheka sont le fruit d'un bon partenariat entre la justice militaire et la MONUSCO, que salue Ricardo Maya, représentant de la MONUSCO et chef de bureau intégré.
L'appui apporté par la MONUSCO à la Haute Cour militaire pour la publication de ces ouvrages s'inscrit dans une stratégie générale de désengagement responsable ciblant la capitalisation des acquis par les autorités nationales.
Les deux ouvrages servent respectivement de jurisprudence sur un procès emblématique concernant la répression des crimes graves relevant du droit international et humanitaire et un recueil de bonnes pratiques de la justice militaire, selon le premier président de la Haute Cour, le général de brigade Mutombo Katalay.
Ce bulletin constitue une étape importante dans la constitution d'un corpus jurisprudentiel de la justice militaire, car la publication des jugements et arrêts rendus par les juridictions militaires permet leur consultation aisée.
La rébellion de Cheikh laisse derrière elle 387 victimes de viols de tous les âges, y compris celles de 80 ans. Des crimes jugés 10 ans après avoir été commis. Au terme de 2 ans d'un procès débité en novembre 2018, Cheikh est condamné par la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu à perpétuité en novembre 2020.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, la mission onusienne annonce la fin de l'opération de transport des plus de 1300 membres non armés des FARDC et de la police nationale congolaise. Dans son communiqué de presse publié hier, la mission onusienne rappelle que cette opération a été conduite en étroite coordination avec le comité international de la Croix-Rouge CICR agissant en tant qu'intermédiaire neutre. Grâce à Mzati.
Malgré un contexte opérationnel extrêmement difficile, la MONUSCO et tous les partenaires ont travaillé jour et nuit pour assurer le succès de cette opération très sensible. Je salue le professionnalisme et l'esprit de coopération de toutes les parties impliquées, ainsi que l'engagement constant du CICR à garantir la neutralité de l'opération, la sécurité et la dignité des personnes concernées tout au long de cette opération, déclare Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Lancée le 30 avril dernier, cette opération complexe visait à transporter à Kinshasa en toute sécurité les éléments des forces de défense et de sécurité congolaises ayant trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO à Goma à la fin janvier 2025, à l'issue de la prise de contrôle de la ville par l'AFC M23. Durant plus de 3 mois, la MONUSCO a assuré la protection, l'hébergement, la prise en charge alimentaire et les soins médicaux de ces personnes sous sa protection, souligne le communiqué. La mission onusienne réaffirme son engagement à mettre en œuvre son mandat de protection des civils et à soutenir les efforts des autorités nationales en matière de rétablissement de la paix, de stabilisation et de réforme du secteur de la sécurité, conclut le communiqué.
Pendant ce temps, les opérations de bouclage clôturées en début de semaine dans la ville de Goma et environ continuent de susciter des polémiques. Dans un communiqué officiel rendu public mardi 14 mai à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parle d'une violation des droits humains, alors que le mouvement AFC M23 affirme avoir interpellé près de 300 personnes entre le 10 et le 13 mai. Jacquemain Chabani dresse plutôt un bilan de plus de 4000 personnes enlevées. Greta Lulendo nous fait le point.
Dans les quartiers Ndosho, Majengo, Mugunga et Lac Vert, ville Goma, la cité de Sake et Kimoka, territoire de Masisi, ainsi que dans les groupements de Muja et Munigi, territoire de Niragongo, ce sont près de 300 jeunes qui ont été appréhendés par les éléments de l'AFC M23 du 10 au 13 mai dernier. Ceux-ci ont été présentés au terrain de Don Bosco Ngangi dans le Niragongo et au stade de l'unité de Goma. Parmi ces interpellés, les sources proches de la rébellion parlent de 18 éléments FARDC, 9 policiers, 34 combattants Wazalendo, 17 présumés FDLR et 181 ressortissants rwandais en situation irrégulière. Alors que les rebelles parlent de la traque des détenteurs d'armes qui insécurisent la ville, le ministre de l'Intérieur dénonce une violation des droits humains. Dans ses communiqués rendus publics mercredi 14 mai, Jacquemain Chabani dresse, lui, un bilan de 107 assassinats et 4000 personnes enlevées et acheminées vers une destination inconnue dans cette opération qualifiée de chasse à l'homme. Le vice-premier ministre parle d'une violation des droits humains par l'armée rwandaise sur le sol congolais devant être réprimée par la justice.
Parlons culture à présent. Il est important que les Congolais vendent la bonne image de leur pays pour attirer les investisseurs et autres touristes. Message du ministre du Tourisme lancé hier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse co-animée avec sa collègue de la culture, art et patrimoine. C'était pour annoncer la tenue au mois de juillet prochain de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa. Objectif, promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de la paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif, mais aussi mettre en lumière les potentiels immenses de la RDC en matière de tourisme et de culture. Grâce à Mzati pour les détails.
Le ministre du Tourisme affirme que cet événement vise aussi à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture du pays, tout en demandant l'implication de tous les Congolais. Didier Mpambia Musanga.
En parlant des visites guidées, nous avons prévu évidemment une croisière sur le majestueux fleuve Congo, la visite du musée, du site Lumumba, de l'Académie des Beaux-Arts, de Sianfumu et des mangroves, sans oublier évidemment le site touristique de Lancelle. Comme le dit un de mes vieux amis, la RDC a besoin de guérir par l'image. Et je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs.
Pour sa part, la ministre de la Culture, Yolande Elébé, ajoute que ce rendez-vous est une occasion de célébrer la richesse de la diversité culturelle de la RDC.
Les musiques du monde entier résonneront dans notre pays, dans notre capitale. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle.
Selon ces deux membres du gouvernement, ce festival connaîtra la participation du secrétaire général de l'ONU Tourisme et de plusieurs pays d'Afrique et du monde.
L'actualité, c'est aussi l'École nationale d'administration ENA et la Caisse nationale de péréquation qui signent un protocole d'accord. C'était hier à Kinshasa. À travers cette collaboration, l'ENA se propose de renforcer les capacités des agents et cadres de la Caisse nationale de péréquation en les rendant plus professionnels à travers des formations spécifiques. Les patrons de ces deux institutions publiques saluent ce nouveau mariage. Des précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Conformément à ces protocoles d'accord, les formations en faveur des agents et cadres de la Caisse nationale de péréquation démarrent d'ici quelques semaines. Le directeur général de l'École nationale d'administration salue cette collaboration qui s'inscrit dans la mission de son établissement de réformer les agents publics de l'État. Il explique s'investir depuis le début de cette année dans l'accompagnement institutionnel en vue de transformer les services publics en modèle de progrès. Tombola Mouké.
Parce que conformément à nos missions réglementaires, nous voulons nous positionner l'accompagnement institutionnel, mais aussi l'appui à la gouvernance de services publics.
Pour sa part, le directeur général de la Caisse nationale de péréquation qualifie cette initiative de salutaire pour l'avenir de son institution. Il s'est dit convaincu que l'accord signé avec l'ENA permettra à son établissement de gagner la confiance du gouvernement afin de déclencher le développement à la base.
Une fois que nous allons passer cette procédure, ça va nous permettre à ce que la Caisse nationale de péréquation, cette fois, soit financée comme la Constitution le demande.
Conformément à l'article 181 de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées.
Direction l'Ituri. Les habitants du centre de santé de Chari, 12 km de Bounia, bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite pour une période de 2 mois. C'est grâce à la dotation en médicaments et matériels médicaux de l'UNICEF dans le cadre du projet Réponse rapide exécuté par l'ONG Programme de promotion des soins de santé primaire. Des centaines de familles des déplacés ont également reçu des articles ménagers essentiels. Isaac Remoyope nous fait le point.
La population du centre de santé des Chari, composée essentiellement de retournés et déplacés de guerre, est confrontée à des sérieuses difficultés de prise en charge médicale faute de moyens financiers. Une centaine d'enfants souffrent de malnutrition. C'est pour répondre aux besoins de cette population vulnérable que l'UNICEF a remis mercredi un lot important de médicaments et de matériels à l'aire de santé des Chari et à l'hôpital général de Rwampara. Trésor Muyumba, chargé de communication de l'ONG PPCSP.
PPCSP UNICEF a eu aussi à faire une dotation en médicaments et matériels médicaux dans le cadre d'appuyer la gratuité de soins pendant 2 mois à toute cette population en détresse.
Plus de 330 familles ont également reçu des articles ménagers pour améliorer les conditions de refuge. Certains bénéficiaires qui étaient dépourvus de tout expriment leur satisfaction. Des milliers de déplacés en Ituri sont sans assistance depuis plusieurs mois. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à Kinshasa, sur le site érosif du quartier Mbala, dans la commune de Selimbao, le grand collecteur en construction par l'entreprise chinoise Crec 8 s'écroule au fil des pluies qui tombent ces derniers temps. Près de 10 mètres du collecteur se retrouvent au fond du ravin qui s'élargit davantage dans ses abords, entraînant dans la foulée l'écroulement des habitations. Avec ce collecteur qui cède déjà, le ravin reprend sa remontée au risque de rejoindre avec le temps la nationale numéro 1 à hauteur de l'arrêt Zappé, où cette route était coupé en 2019, craignent et alertent les habitants de ce coin. Reportage signé Billy Van Lutumba.
C'est comme s'ils étaient venus nous créer encore un autre problème.
Les Chinois ne font rien. L'érosion fait qu'il s'aggrave. C'est trop profond.
La situation est vraiment catastrophique. Elle est chaotique.
Ces lamentations sont celles des habitants près desquels passe le collecteur dont les travaux sont à l'abandon et qui engendre la remontée et l'élargissement du ravin vers Route Matadi. Un jeune habitant décrit la situation.
Une partie de caniveau qui a été déjà construit est cassé, mesurant à peu près 10 mètres. L'eau tombe vers les bas, ça fragilise le sol et cela entraîne une perte progressive et rapide des parties construites. À côté, cette maison qui était déjà épargnée commence à partir. Nous demandons à l'OVD et aux Chinois ainsi qu'aux autorités surtout qu'ils puissent intervenir. Sinon, nous allons perdre tout ce qu'on avait déjà
cette
fait.
Cette retraitée regrette la perte de plus ou moins 20 mètres de sa parcelle emportée. Elle relate.
Si on n'intervient pas, nous risquons de quitter les quartiers puisque nous vivons dans des stress et ça devient trop vaste et trop profond. Je ne sais pas comment on va faire, l'État a beaucoup d'argent.
Lors de notre tournée le long du collecteur, une jeune dame nous interpelle et alerte en ces termes.
Notre voisin de gauche, une partie de sa parcelle est partie et du côté de Somao, c'est en train de monter. L'eau vient avec agressivité et ça...
Sous ce proche de l'OVD, Office des Voiries et Drainage, il nous revient que cet arrêt des travaux de construction s'explique par le manque de financement qui n'arrive plus du gouvernement central.
Actualité internationale.
Nous sommes en Libye. Le gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, décrète une trêve dans toute la capitale libyenne après 3 jours de violents affrontements entre plusieurs milices. Les Nations unies, qui jugent la situation alarmante, appellent toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour maintenir cette trêve et la renforcer par le dialogue.
L'invité.
Nous recevons René Eaka Ibambi, il est président du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Touélé. Avec lui, nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes à Isiro, chef-lieu de la province, où plusieurs opportunités s'offrent aux jeunes pour entreprendre afin de transformer les idées en actions concrètes. René Eaka Ibambi est avec André Kitenge.
René Eaka Ibambi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe ici chez vous, vous comme président du Conseil de la jeunesse?
L'entrepreneuriat dans la province de Haut-Touélé, c'est quelque chose soutenu par la communauté juvénile. Malheureusement, ça a été un flux limité suite à certains principes qui manquent, par exemple la formation dans les domaines professionnels, l'accompagnement technique. Il y a aussi l'accompagnement financier, donc qui pose un peu des problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit que le flux d'être entrepreneuriat d'aller au Touélé, c'est un peu limité. Mais la communauté juvénile est vraiment animée et à la fois de faire de l'entrepreneuriat dans la province de Haut-Touélé.
Y a-t-il d'opportunités dans le milieu?
Oui, il y a plein d'opportunités dans la province de Haut-Touélé. Il y en a trop. C'est presque illimité, si on peut le dire.
Dans quel domaine, précisément?
Nous pouvons parler de l'entrepreneuriat dans les domaines agricoles. Il y a plusieurs opportunités d'entreprendre dans l'agriculture. Et si on essaie un peu de débobiner différents secteurs agricoles, il y a l'élevage, il y a la pisciculture, les volailles, les différentes cultures maraîchères, cultures pérennes, ainsi de suite. Il y a plusieurs opportunités dans ce secteur-là. Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans les domaines techniques, par exemple dans la mécanique, l'électricité, la charpenterie, la construction, la plomberie. Il y a plusieurs opportunités dans ce secteur-là. Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans les médias, le journalisme, donc les médias en ligne, les médias locaux, prenons le cas de différentes radios, FM et télévision. Il y a plusieurs opportunités, mais ce qui manque, c'est juste l'accompagnement. Comment est donné vie dans ce secteur entrepreneurial? Il y a aussi l'opportunité d'entreprendre dans plusieurs infrastructures, dans les domaines routiers, la construction et plusieurs autres.
Vous êtes avec les jeunes presque tous les jours. À quoi aspirent les jeunes?
La jeunesse du Haut-Touélé, nous sommes avec elle à tout moment et tous les jours. Les aspirations de la jeunesse du Haut-Touélé, c'est d'être formée, encadrée, accompagnée, à faire de transformer les milliers. On dit c'est l'homme qui transforme les milliers, c'est pas les milliers qui transforment l'homme. Donc la jeunesse du Haut-Touélé est aspirée par la transformation de son propre millier. Cette volonté-là, il y en a, parce que nous échangeons avec elle à tout moment et il y a des idées qui viennent partager avec nous. Parfois, nous-mêmes, on s'est dit, si on avait les moyens, on pouvait les accompagner à atteindre ces objectifs-là. La jeunesse du Haut-Touélé est capable de transformer son milieu, nécessairement si elle est encadrée, accompagnée et orientée.
Quelles sont vos relations avec les autorités locales sur le plan entrepreneurial?
Oui, pour ce qui concerne la collaboration, la communication avec les autorités locales. C'était le 24 et le 26 mars. On a organisé un atelier sur la cohésion sociale et la paix, où nous-mêmes nous étions intervenants. Le fait de nous faire participer dans cet atelier-là comme intervenants, ça prouve déjà la considération que les autorités ont envers nous, parce que c'était une initiative du gouverneur des provinces. Dans cet atelier-là, nous avons ici à parler sur l'entrepreneuriat. Et l'exécutif provincial nous avait dit il y a le projet de la relance agricole de la province du Haut-Uele où nous pouvons trouver plusieurs types de semences, les semences améliorées, où la jeunesse peut approcher les institutions attitrées en fait de faire la demande de ces semences-là. Il peut avoir aussi des accompagnements à terme financier pour les accompagner à faire quelque chose. Ça prouve quand même une collaboration étroite entre nous, les représentants de notre province du Haut-Uele.
Parlez-nous un peu, il y a des jeunes entrepreneurs dans la région ici. Qu'est-ce qu'ils font concrètement?
Dans la région, il y a des jeunes entrepreneurs qui essaient quand même de faire quelque chose avec les efforts personnels. Il y a de ces jeunes-là qui entreprennent dans les médias, par exemple. Il y a aussi de ces jeunes-là qui entreprennent dans le domaine agricole, malgré la production ETP limitée, faute de certains supports tels que l'électricité, parce que ça fait partie aussi des éléments qui accompagnent l'entrepreneuriat. Ils œuvrent dans les volailles, certains travaillent dans l'élevage des porcs, et d'autres même travaillent dans la pisciculture. Ils les font. Il y a aussi certains qui sont dans la plomberie. Ils les font malgré ce pas encore d'appelaire dans la province. Il y a aussi certains qui travaillent dans la construction. Toutes les maisons que vous voyez là, la plupart de ces maisons, ce sont les jeunes entrepreneurs de la province du Haut-Uele qui construisent ces maisons. Dans l'électricité, ils les font malgré certains efforts dans les CRR. Donc, ils ont observé quelque part, ils ont essayé de capitaliser ça, afin de donner vie à cette activité-là. Donc, la jeunesse du Haut-Uele se débrouille quand même dans ces sens-là.
René Eyaka Ibambi, merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.